Je crois que j'avais rendez-vous avec Sylvie, Yann, vous l'avez ?
Oui, elle est là.
Ah, elle est là, d'accord.
Elle est là, bah écoutez, je vous laisse ensemble.
Merci Yann.
Avec plaisir, pas de problème.
Merci Yann. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir. Vous étiez parlé aussi longtemps, Père Lachaise.
On s'est fait virer.
Vous êtes fait virer. Alors, déjà le loup, vous m'avez fait mourir de rire. Saint-Sulpice, j'ai adoré. Mais là, Père Lachaise, il fallait le faire quand même. Ça, je reconnais que vous êtes fort.
On voulait aller sur la tombe de Jim Morrison, on n'a pas eu le temps. Chopin, on n'a pas eu le temps. Raymond Roussel, on n'a pas eu le temps. Enfin, il y en a plein. On n'a pas eu le temps de voir. Il était comment, Yann, ça allait ?
Ouais.
D'accord. Vous avez parlé de quoi ?
On n'a pas parlé encore.
D'accord.
Je suis désolé. Il m'a dit que vous arriviez tout de suite.
Il y a mon équipe qui va me rejoindre pour... dire bonsoir aux éditeurs. En tout cas, je tiens ma promesse, ma chère Sylvie, et on avait décidé qu'on continuerait à dialoguer ensemble. Et nous serons rejoints à la fin de notre conversation par une auditrice qui s'appelle Marianne et qui voulait également intervenir parce qu'elle a vécu quelque chose de presque similaire à votre expérience.
Ok.
Si ça ne vous dérange pas. Voilà.
Non.
Alors, nous vous écoutons, Sylvie.
Aujourd'hui, pour la première fois, on m'a mis en position assise, mais les doigts de pied qu'on m'a enlevés, je les sens. J'ai toujours l'impression qu'ils sont au bout de mon pied, mais je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à marcher un jour. J'avoue que j'ai une plaque dans le dos de S1 à L4, hein, et les kinés viennent dans ma chambre. Ils m'ont apporté un fauteuil roulant, chose que j'ai refusée totalement. Et j'ai peur d'être paraplégique. J'ai peur. Ils me disent que non, mais j'ai pas de force dans les jambes. J'essaye de bouger mes jambes, j'y arrive pas.
S'ils vous disent que non, je pense que ce ne sont pas des gens qui plaisanteraient avec ce genre d'issue et de situation.
Ouais, mais bon. On m'a quand même enlevé un rein, on m'a mis des prothèses de hanche, mis prothèses de genoux, on m'a enlevé la rate, on m'a enlevé une partie du foie.
Suite à cet accident ?
Ouais.
Je rappelle pour les auditeurs, parce que c'est un cas quand même un peu spécial, pour ne pas dire extraordinaire, dans le sens étymologique du terme, s'entend, notre amie Sylvie, avec qui j'avais longuement discuté il y a quelques semaines, de la notion de suicide, parce que dans la famille de Sylvie, il y avait une sorte d'épidémie, on va appeler ça comme ça, de suicide, et Sylvie se demandait pourquoi. Elle avait émis l'hypothèse, que je lui avais dit être farfelue à mon sens, d'un atavisme du suicide. J'avais demandé à Sylvie de fouiller dans les archives familiales pour voir s'il n'y avait pas un drame qui s'y cachait, et Sylvie a effectivement trouvé, vous allez nous le redire Sylvie, quelque chose qui est de l'ordre de la découverte macabre.
J'ai découvert 4 bébés égorgés, une grand-mère étranglée et un grand-père recouvert qu'on venait de dépendre. Tout ça, en gros, sur un journal de Mont-Séclair. Et je vis très mal. J'ai pas trouvé de psychologue pour en parler tout de suite. Hein. Et je vois les 4 bébés avec ma fille qui est décédée au milieu. Donc je vois 5 bébés que je fasse tout ce que je veux, que j'essaye de dormir, que je regarde la télévision. Et là, malheureusement, on transportait 3 petits bébés qu'on ramenait. C'était des bébés qui étaient nés à 900 grammes et qui arrivaient à 2 kilos. Donc qu'on ramenait à Compiègne. Hein. Et en réalité, je voulais plus faire de SAMU pédiatrique. Je voulais bien répondre au téléphone parce que ça allait pas. Elle voyait que j'étais fatiguée, que je m'enfermais. Donc, comme c'est ma voisine, la pédiatre en chef, elle m'a dit on aurait besoin de toi pour le téléphone. Donc, j'ai dit ok, je vais répondre au téléphone, je vais prendre les urgences et je verrai. Et elle est arrivée d'un seul coup dans le standard en me disant « Allez Sylvie, viens, viens, viens vite, j'ai besoin de toi, j'ai trois petits bébés et j'ai pas d'infirmière. » Donc elle me dit « Toi, tu peux venir, hein. Donc tu viens s'il te plaît. » Et j'ai accepté et c'est vrai que sur place, on a préparé les bébés, je les ai scopés, elle les a intubés, on a tout fait sans problème. Et elle s'est mise je pense que ça ne serait pas arrivé après réflexion. Je pense que c'est sûr que quand j'ai vu les trois bébés dans la couveuse, je me suis dit, voilà les cinq gosses que j'ai perdus. Et elle s'est mise à me poser des questions en me disant que je devais avoir eu des problèmes pour avoir pas rentré en quatrième année de médecine, d'avoir tout quitté tout de suite et d'être partie. J'ai commencé à lui parler un peu et je lui racontais de l'histoire de mon père. Et la porte, j'ai entendu que la porte était mal fermée. Donc, comme on a la police devant et derrière pour qu'on nous dégage sur le périph, pour qu'on roule le plus vite possible, j'ai voulu remettre la porte. Et la porte, en réalité, à 90 à l'heure, elle s'est ouverte complètement. Et une fois qu'elle s'est ouverte, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai eu une pulsion, je me suis jetée. Je me suis jetée sur une voiture en plus. J'avais pas vu que la voiture arrivait. Donc j'ai rebondi sur une voiture et je suis passée sur une autre voiture. Une voiture m'a roulé dessus. Et le motard qui était derrière a bloqué la circulation tout de suite parce que sinon c'était un poids lourd qui me passait dessus. Donc j'aurais sûrement pas été là pour parler.
Et en même temps, cette seconde précise, ma chère Sylvie, c'est ce que vous souhaitiez, ne pas être là ce soir, au moment où vous avez sauté.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. C'est pour ça que je voudrais, si ça ne vous dérange pas, ma chère Sylvie, que Marianne nous rejoigne, parce qu'elle a un témoignage tout à fait troublant. Bonsoir, Marianne.
Bonsoir, Yann.
Oui, Mathilde m'a dit que vous aviez un témoignage qui pouvait, d'une certaine manière, entrer en résonance avec le témoignage de Sylvie.
Oui, un petit peu en résonance, oui. À savoir que là, c'est le subconscient et c'est une histoire un petit peu différente. Je ne sais pas par où prendre le début parce que je suis. Ce qu'elle vient de raconter Sylvie, c'est très bouleversant et c'est vrai que depuis hier soir, ça m'a beaucoup remué.
Ce qui est bouleversant dans l'histoire de Sylvie, je le dis aux éditeurs, on en a parlé hier, c'est que on définit toujours le suicide, enfin souvent, et c'est sans doute une erreur de le faire, comme quelque chose de préparer comme quelque chose de longuement mûri, de penser. Or, il y a aussi une catégorie de suicides dont on parle peu, finalement, c'est des suicides irréfléchis. Ceux qu'on n'aurait peut-être pas commis une seconde plus tôt et ceux qu'on n'aurait sans doute pas commis une seconde plus tard. Et c'est ça qui est relativement fascinant dans l'histoire terrible que nous raconte Sylvie. Et je pense que vous avez, vous, une expérience très différente, mais qui rentre, comme je le disais, qui fait écho à l'expérience terrible de Sylvie.
Moi, j'ai été envoyée dans un pays parce que par mon travail, je suis envoyée à l'étranger. Donc, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a tapé dessus pendant 3 ans. Et j'étais partie toute seule avec mon fils à l'étranger.
Depuis que je suis le début de la libre antenne, on s'aperçoit, excusez-moi de vous interrompre, que le nombre de gens qui tapent sur des femmes est quand même relativement important. Ça fait vraiment
mais là,
peur.
Excusez-moi de vous couper, Yann, je sais que vous avez horreur de ça. Mais c'était pas en France, c'était.
C'est pas une excuse, hein.
Non. Oui.
Que ce soit un Français qui tape, un Polonais, un Brésilien, un Russe ou un Danois, l'hématome est le même. Hein.
Tout à fait. Bon, on avait 15 ans d'écart et il m'a aidé à perdre 20 kilos, donc j'étais un peu fameuse. Ça veut dire que quand j'étais partie à l'étranger, j'étais partie en 2017 jusqu'en 2020. En 2020, il m'a quittée. En 2018, j'avais commencé à le rencontrer. Je pesais 90 kilos en 2018. Et j'avais perdu plus de 25 kilos grâce à lui. Je faisais beaucoup de sport. Enfin, il faisait de la Zumba. C'était un professeur de Zumba. Et j'étais un peu s'amuse. Et en 2020, il m'a quittée, en août 2020. Et en août 2020, c'est l'été où il m'avait laissé une lettre après avoir pris mon argent, m'avoir tapé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et puis, je me suis retrouvée chez moi. Et je ne vous écoute pas tous les détails et tout ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. je me suis retrouvée avec des gens qui étaient, voilà, que j'avais rencontrés sur place, qui étaient, je pensais, mes amis, mais c'était que des rencontres, au bout du compte. Et je me suis retrouvée à une soirée, et oui, j'avais un peu bu, et je me suis retrouvée pareil que Sylvie. Moi, j'ai vu la fenêtre, et savoir si c'est, je me suis mis, voilà, à fumer ma cigarette à la fenêtre. Et je le fais souvent, hein, même parce qu'il n'y a pas de balcon, donc je fumais souvent ma cigarette à la fenêtre. Et après, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le subconscient ou c'est parce que j'ai perdu l'équilibre. Et ben, je suis tombée de deux étages. Donc ça faisait, dans le pays où j'étais, c'était un peu plus haut que... c'est pas tout à fait les mêmes constructions qu'on a chez nous. Donc je suis tombée à peu près de très très haut. Et bon, j'ai fait 3 jours de coma, j'ai perdu ma hanche, j'ai perdu des dents, j'ai perdu ma mâchoire, j'ai perdu mon poignet, enfin des poignets, mon poignet, j'ai perdu mon poignet. J'ai eu une broche au poignet, donc maintenant ça va mieux au bout de 2 ans. Mais voilà, donc oui, ça faisait résonance avec le témoignage de Sylvie, comme vous dites, par rapport, moi j'avais l'image de la souffrance que j'avais eue en amont par rapport à... Et cette fenêtre. Dans ma tête, moi ça fait 2 ans que j'ai cette fenêtre. Il faut bien penser que tous les jours, quand je me vois dans le miroir et je me vois avec mes dents en moins. Donc aujourd'hui, j'ai un dentier, comme ont un peu les personnes âgées, comme ont mes parents. Et voilà, donc, et c'est grâce à Dieu que, enfin, grâce à Dieu. Bon, si on est croyant, on n'est pas croyant, mais j'ai un ami camerounais qui était là-bas, qui était vraiment un ami, qui m'a dit bah, Dieu, il t'a permis de voir la mort. Mais il t'a laissé quelque chose, parce que tous les jours, quand tu te regardes dans la glace, bah, tu te rappelles ce qui s'est passé, et c'est à toi maintenant d'en prendre la charge et de savoir ce que tu vas en faire de ta vie, quoi.
Ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est que vous ne savez pas vous-même si cela relève du suicide ou pas, si j'ai bien compris.
Non, non, si, pour moi, je... vous savez, moi j'ai été rapatriée, j'ai eu au niveau du travail, j'ai eu des soucis par rapport à ça, par rapport parce que tout s'est tué, c'est après on a su que c'était un. Après j'ai eu ma famille qui m'ont tombé dessus, j'ai eu mon frère, j'ai eu mon fils, j'ai eu tout le monde. Oui, maman, t'as voulu faire ça, oui, t'as fait ça. C'était. J'arrive même pas à dire le mot suicide. C'est. Maman, t'as voulu mettre fin à ça. Pour moi, je ne sais pas. Ça fait 2 ans que j'essaie. Je suis venue en CMP pour essayer de mettre. J'essaie de me convaincre, mais non, je pense pas que j'ai voulu sauter. J'ai eu des envies bien avant, quand il me tapait dessus et que ça a été très violent. Mais je peux pas dire à 100% que ce soir-là, j'ai voulu tomber.
Donc là, il y a quand même deux cas. Moi, ce qui m'interpelle ce soir, c'est qu'il y a quand même deux cas de suicide auxquels nous ne sommes finalement pas tellement accoutumés lorsqu'on évoque la notion de suicide, parfois dans des débats de manière désincarnée et théorique. C'est que d'un côté, nous avons le cas de Sylvie qui a voulu se suicider, mais peut-être qu'à cette seconde précise de toute son existence, si je ne trahis pas la pensée de Sylvie, mais elle nous le dira. Et de l'autre côté, nous avons le cas de Marianne qui ne peut pas jurer qui ne peut pas jurer ses grands dieux qu'elle a vraiment voulu se suicider. Donc ces deux cas de figure qui embrassent le mot de suicide, mais qui, d'une certaine manière, lui échappe en même temps.
Oui, tout à fait, parce que si la porte s'était pas ouverte, jamais je me serais jetée. Ça a été vraiment l'histoire de 3 secondes. C'est tout, le fait que je tienne la porte et que je me jette, j'ai pas eu le temps de réfléchir.
C'est-à-dire que si vous n'aviez rien eu, vous n'auriez peut-être jamais voulu recommencer. Voilà, a priori, vous ne recommencerez jamais, je pense. Mais si vous n'aviez rien eu, vous n'auriez peut-être pas voulu recommencer. C'est ça qui est fascinant dans votre histoire, Sylvie.
Oui, et je me souviens quand la voiture m'est passée dessus, j'ai souffert le martyr. On m'a opéré des hanches, j'ai une plaque sur le tibia parce que j'ai une double plaque du péroné, on m'a enlevé un rein, on m'a remis des hanches, des prothèses de hanches, on m'a mis des prothèses de genoux, on m'a enlevé un rein, on m'a enlevé la rate.
Et Sylvie, j'ai une question à vous poser, parce que c'est pas tous les jours qu'on a à l'antenne et qu'on a la possibilité de parler à quelqu'un sur qui une voiture est passée. Quand une voiture nous passe dessus, Est-ce que la douleur est si forte que finalement le corps est anesthésié, ou est-ce qu'on ressent chaque millimètre, on le ressent de manière intense? Est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe dans le corps quand on se fait écraser par une voiture, passer dessus?
Alors, il m'est passé sur les jambes en premier. J'ai eu très très mal aux jambes.
C'est quel genre de douleur qu'on ressent? C'est des douleurs inconnues du corps?
Oui, c'est un poids lourd qui vous tape, qui vous fait très mal. Et après, par contre, quand les deuxièmes roues sont passées dessus, c'est le rein qui a pris et tout, j'ai plus eu mal, là. Mmh. Et le motard qui a bloqué la circulation est arrivé tout de suite, hein, et j'ai pas perdu connaissance, tout de suite. Je sentais tout mon corps en charpie. Je savais que tout était cassé, j'avais horriblement mal jusqu'au temps que le SAMU arrive et qu'il m'endorme. Mais j'ai eu horriblement mal.
Des douleurs que vous n'aviez jamais ressenties de votre vie, des douleurs neuves.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment un poids qui vous tombe dessus. C'est les roues, c'est un poids qui vous tape dessus. Et je vous dis, quand c'est arrivé au niveau du rein, j'ai dégusté. Alors qu'au niveau des jambes, la deuxième fois qu'il a passé sur mes jambes, la deuxième roue à l'arrière qui a passé sur mes jambes, j'avais plus mal là. Mais j'avais mal absolument au rein, à la rate. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Et est-ce que là, dans cet état où vous étiez, je vais vous poser une question qui n'est pas loin d'être absurde, mais j'en profite de vous avoir comme témoin de cette horreur. Est-ce que vous vous êtes dit inconsciemment, il vaut mieux que j'y passe? Ou est-ce que vous êtes dit, je vais tout faire pour m'accrocher et rester en vie?
J'étais pas sûre de m'en sortir après tous les dégâts qu'il y avait. J'étais pas sûre de m'en sortir. Et j'avais la chef pédiatre qui me parlait et qui retenait toute mon attention pour pas que je perde
connaissance. Oui, mais Sylvie, justement, quand on n'est pas sûr de s'en sortir, est-ce que paradoxalement, c'est pas le moment où on se dit il faut que je vive? C'était ça ma question.
Ouais, si, je crois.
C'est ça, donc l'instinct de vie l'a emporté.
Oui, je crois que la vie l'a emporté.
Quelle histoire, Sylvie, mais quelle histoire, franchement, c'est incroyable, incroyable.
Ouais, parce que tout de suite, quand notre équipe de SAMU est arrivée, ils m'ont endormie, je leur ai dit que c'était que la salpêtrière, ils étaient d'accord, évidemment, pour m'emmener que là, mais si j'avais... Quand je me suis réveillée dans mon lit... Je me suis dit, ben ça va, j'ai rien. Je me suis pas rendu compte qu'on m'avait coupé 4 doigts de pied, qu'on m'avait opéré, que j'avais des drains partout. Je me suis dit, je m'en tire bien. Pourquoi t'as fait ça? Je comprenais pas pourquoi. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'était parce que la pédiatre
le compte
me posait
à rebours,
des questions?
Je suis désolé, mais le compte à rebours terrible, vous savez, on a une ennemie ici, qui est une amie, mais une ennemie aussi. C'est ça le paradoxe de la publicité. C'est le 23h59:30 et elle est dans 3 secondes maintenant. Et c'est une douleur que de l'annoncer, mais la voici.
La libre antenne d'Europe 1. Yann Moix accompagne vos nuits.
De retour du cimetière du Père Lachaise avec mon équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via Mathilde et Nicolas au 39 21 50 centimes par minute ou réagir au témoignage en envoyant un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit en majuscule, et que vous pouvez nous envoyer des mails à libreantenne@europe1.fr. Je suis toujours en ligne avec Sylvie et Marianne. Rebonsoir Marianne, rebonsoir Sylvie.
Oui, je vous disais, la question que je me posais, et les bébés, je les ai préparés. Je les ai scoopés, c'était des triplés. On les a scoopés à deux, on leur a mis leur saturation. Tout s'est bien passé. Et Soraya, le pédiatre, a commencé à me parler en me disant « T'as de gros problèmes depuis longtemps et tu n'en parles à personne. » Et en effet, personne connaissait ma vie, personne savait ce qui s'était passé avec mon père. Donc j'ai commencé à en parler. Et je me demande si c'est pas ça qui a précipité. Parce que j'en avais jamais parlé. Les seuls qui étaient au courant, c'était vous et Sana. Personne d'autre était au courant. Personne qui me connaissait, du moins, était au courant. Et elle m'a posé des questions et je lui ai répondu naturellement. Et je me demande si c'est pas plus ça qui m'a fait que je me suis jetée, plus ça que la vision des bébés. Je me demande si c'est pas parce qu'elle m'a questionnée, parce que j'ai commencé à parler alors que j'ai jamais parlé depuis 40 ans que ça s'est passé, j'en ai jamais parlé.
Attendez, vous êtes en train de dire quoi là exactement? Vous me faites peur.
Non, mais...
Vous êtes en train d'insinuer que le fait de vous être confié la libre antenne vous a aidé à vous jeter sous un camion?
Non, pas ça du tout.
C'est un peu ce que j'étais en train de comprendre.
Non, c'est pas ça que je voulais
dire. J'ai eu peur.
Vous êtes les seuls à qui j'en ai parlé.
Oui.
Vous êtes les seuls, personne enfin, dans les seuls, mon entourage...
Les seuls, plus toute la France, on est deux plus toute la France, oui, c'est vrai.
Oui, mais personne ne me connaît.
Oui.
Personne ne me connaît. Oui. Tandis qu'elle, elle était en face de moi et elle me questionnait. Et elle me disait, tu as des problèmes et tu ne veux pas en parler.
Ouais.
Et j'ai commencé à lui parler de ce qui s'était passé avec mon père.
Oui, je comprends.
Et elle ne comprenait pas, si vous voulez, pourquoi je n'étais pas rentrée en quatrième année de médecine, que j'avais tout abandonné.
Oui, je comprends ça.
Donc elle me posait des questions. Donc je ne sais pas si c'est réellement les bébés ou si c'est le fait que je me suis mise à parler, que j'ai regretté de parler. Et
en général, en général, je pense moi que la parole, ça libère. Que le fait de parler, c'est toujours une bonne chose, que ce soit un ami, parfois dans un confessionnal à l'église, parfois aussi un psychanalyste ou une psychologue. Ou... Ça fait toujours du bien de parler, je pense que ça allège. Mais peut-être que vous, d'entendre vos propres mots en train de dire quelque chose que vous n'aviez jamais dit, c'est à vous que vous l'êtes dit. Parce que quand on va voir quelqu'un, quand on se confie, par exemple à la Libre Antenne, finalement on ne se connaît pas, vous vous confiez. Quand on se confie à un psychanalyste, on ne parle qu'à soi-même. Les auditeurs m'appellent et on dialogue, mais finalement ils se parlent à eux-mêmes. Et souvent ce que j'aime chez les auditeurs, et c'est ce qui aussi les bouleverse et les perturbe, c'est qu'ils disent des choses qu'ils ne se sont jamais entendus eux-mêmes dire. Et c'est cette parole-là qui revient en ricochet qui les secoue.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est juste... Je pense que si j'avais pas eu cette discussion-là, je me serais pas lâchée. J'aurais pas lâché le camion et je serais pas tombée comme ça.
Cela dit, je vais dire quelque chose. Je trouve quand même incroyable, dans l'état où vous êtes, d'avoir la force d'appeler et de converser, parce que vous êtes quand même en mille morceaux.
Ah ouais, oh ouais.
Moi, je trouve ça incroyable.
Ouais, non, mais c'est bon, là. On m'a enlevé mes drains pleureaux, donc j'ai déjà beaucoup moins mal. Donc j'arrive à parler. Ce qui m'inquiète, c'est que on m'a assis pour la première fois aujourd'hui, mais je sentais pas la force dans mes jambes, je sentais pas. Donc j'ai un peu peur pour ça. Mais bon, on m'a mis deux hanches, deux prothèses de hanches, on m'a mis une plaque de S1 jusqu'à L4. Donc j'ai quand même une fracture ouverte. Où ils ont enlevé le matériel, ils ont coupé les broches et on m'a mis un plâtre, une résine pour pas que ça soit trop lourd. Mais je voudrais bien juste me mettre debout une fois pour savoir si je sens mes jambes. Et...
Chaque chose en son temps, vous êtes entre de bonnes mains et les professionnels vous diront en temps et en heure quelles sont les modalités à suivre pour recouvrer la marche et peut-être même, d'une certaine manière, retrouver une vie presque similaire à celle que vous aviez avant ce terrible accident. Marianne et Sylvie, je vais vous embrasser. Vous m'appelez quand vous voulez. Là, je vais être obligée de prendre congé. Nous allons écouter un peu de musique. Je vous embrasse toutes les deux. Merci de votre confiance et à très vite.
Au revoir.